Mes chers amis, bonjour. Ici David et bienvenue à la saison 2 de Quelle Histoire. J'espère que vous avez la pêche. Ça y est, fini le look de braqueur. Plus de masque, la vie reprend petit à petit son cours. Une pensée à tous les pays en guerre. Décidément, la bêtise humaine n'arrête pas de se surpasser. Enfin, qui suis-je moi pour juger les autres? Avant toute chose, la famille, lâchez-vous. Laissez-vous aller. Si vous n'êtes toujours pas abonné, allez-y, faites-le maintenant. C'est sans douleur et ne laisse aucune séquelle. Activez aussi la cloche pour rester connecté. Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Aujourd'hui, je me pose avec une dame, une justicière, sans cap ni pouvoir, mais qui essaye d'innover, d'explorer, de tenter une nouvelle approche, sortir de la norme, de cette pensée commune où d'un côté il y a les bons et de l'autre les méchants. Consciente que cette vie est loin d'être comme un scénario d'un film hollywoodien, elle cultive les roses dans son microcosme et mesure les changements que ses propos causent. Alors, je vous laisse découvrir qui est Isabelle Ferris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bonjour Isabelle, comment allez-vous?
Mais ça va bien, moi. Et toi, comment vas-tu?
Moi, je vais très bien, très bien. La vie est belle.
Oui.
On sort du bois, comme on dit, après deux ans de galère. Donc, j'espère que, moi, on aura un bel été. On ne sait pas pour la suite, mais on dirait que ça va bien se passer cet été par rapport aux deux dernières années, quoi.
Oui, disons qu'on va essayer d'aller vers le positif.
Exactement.
On s'accroche.
Exactement. Alors, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Alors, on va tous fermer les yeux, ok? Et Isabelle, vous allez nous faire une visite guidée de votre enfance.
Ah oui, moi ça?
Voilà, vous.
D'accord. Oh mon Dieu. J'ai eu une belle enfance.
D'accord.
Très, très privilégiée. Banlieue de Montréal, petite famille, quatre enfants, et je suis la deuxième de quatre enfants. Vraiment, un grand frère, 15 mois plus vieux que moi, alors on était très proches.
D'accord.
Puis j'ai une petite sœur, un petit frère un petit peu plus jeune, là, 6 ans et 8 ans de différence. Donc on voit un peu le portrait, là, belle famille unie, papa anglophone, libano-québécois. Et mère francophone québécoise. Donc, il y a quand même un côté multiculturel là, dans mon enfance. Mm-hmm. J'étais très, très, très près de la famille à mon père, donc mon grand-père qui était libanais. Mm-hmm. Alors, ça a toujours été un intérêt là, par rapport aux opinions différentes, les cultures différentes. Puis à la table, chez nous, ça débattait fortement, justement, vu que c'était un milieu où il y avait... les gens allaient à l'école beaucoup, comme mon oncle, c'était un ingénieur. Il y a beaucoup de ça dans ma famille. Mm-hmm. Donc, tout le monde avait un peu pensait un peu avoir la réponse. Donc, mm-hmm. j'ai baigné là-dedans. C'était très, très, très intéressant.
Mm-hmm.
Puis, je pourrais m'étendre longtemps. Là. C'est sûr que, en gros, c'était très, très bien jusqu'à l'adolescence, finalement. Là.
D'accord.
Je pourrais dire, ouais.
OK, donc pas... Parlons justement de votre parcours atypique. Vous venez de dire que vous êtes né d'une mère québécoise et nutritionniste et d'un père libano-québécois, anglophone et informaticien.
Oui.
Comment était l'ambiance à la maison? Est-ce que, je veux dire, par rapport à toute cette différence, on dit que les différences, l'opposé s'attire, voilà. Mais est-ce que, dites-nous, par rapport à déjà au niveau culturel, déjà un homme et une femme dans la même maison, il y a déjà une tension normale. Mm-hmm. Là, on rajoute.
Ils se sont séparés, là. Ça peut donner une idée. Là. J'ai vécu un divorce. Mes parents ont vécu un divorce vraiment difficile. Moi, je l'ai vécu difficile quand j'avais 13 ans. Donc, c'est ça la suite. Je te dirais, oui, les tensions homme-femme, à l'époque, il y avait beaucoup moins, tu sais, pas beaucoup de compréhension aujourd'hui encore. On essaie de comprendre, mais à l'époque, c'était encore moins. Tu sais, quand je regarde, tu sais, je me renseigne de plus en plus sur justement les droits des femmes et tout, puis je me rends compte, tu sais, c'est comprenable là, que nos grands-mères avaient de la misère, puis nos mères à se faire entendre. Hein. Donc, c'est sûr, nutritionniste, ma mère a un bac, mais elle n'a pas travaillé là-dedans. Ça l'a pas aidé, disons, à la crédibilité, tu sais, que la société lui accordait, là, d'être une femme éduquée, mais qui travaillait pas, c'était pas très bien vu, tu sais, même qui travaillait pas, elle avait eu 4 enfants, tu sais.
D'accord.
Je défends beaucoup les femmes au foyer, là, aussi. Par rapport à ça, tu sais, je pense que ça l'a manqué, là, ça manque encore du soutien pour ce choix-là que les femmes font après avoir porté des enfants, de dire « je reste avec eux, puis je m'en occupe », on dirait qu'on on est allé d'un extrême à l'autre, mais bon. Alors, c'est ça, ça a fait comme un père de, qui voulait que ma mère fasse carrière, puis bon, c'est ça. C'est ma mère qui voulait rester avec ses enfants, donc oui, il y avait un clash là, de ce côté-là. Le clash, il est arrivé surtout avec ma grand-mère là, et mon grand-père, tu sais, qui était lui vraiment de parents immigrants libanais et elle d'une famille catholique. Le clash, il s'est fait là. Après, mes parents se sont rencontrés à l'école secondaire, donc vivaient quand même. Tu sais, mon père était anglophone, mais il a été forcé d'aller à l'école francophone, donc forcé vers à être obligé un peu de comprendre les Québécois. Tombé avec une Québécoise, mais il a tout le temps eu cette espèce de il suit juste la Gazette, il suit juste les médias anglophones. Alors, j'ai tout le temps eu une vision comme... Je réalisais pas comme c'était quoi le Québec. Ma mère, elle s'affirmait pas nécessairement. Côté politique, ça l'intéressait pas tant. Alors, ça a été long avant que je m'intéresse à la politique québécoise puis que je comprenne là, le clash peut-être qu'il y avait dans la famille. Des fois, on s'en rend juste pas compte là, quand on n'est pas conscient de certaines cultures comme les Anglais, les Français au Québec, c'est déjà une grosse division. J'en étais pas tant consciente plus jeune. Pour moi, c'était un avantage par l'anglais, tout simplement. Puis,
d'accord.
Je voyais pas plus loin que ça.
D'accord. Vous avez un côté artistique. Vous êtes ou vous avez été auteur, compositeur, interprète, n'est-ce pas?
Oui.
Jusqu'où êtes-vous allé dans ce domaine?
Je suis allée jusqu'à 3 pistoles en chanson. Je dirais que ce serait mon plus bel accomplissement là, avant que finalement je décide de faire autre chose. Là. J'avais envie d'avoir un moment à moi, puis chanter devant une salle pleine. En plus, mes compositions, j'ai pu me rendre dans la catégorie auteur, compositeur, interprète, puis aller interpréter mes 2 compositions. C'était un accomplissement et je dirais qu'après avoir découvert un peu comment le milieu fonctionne, pour moi, c'était beaucoup. Là. Je voulais pas nécessairement pousser plus loin que ça. Là. Parce qu'après, c'est difficile avec la vie de famille, la musique, là, partir en tournée et tout. Là, on le voit pas nécessairement l'arrière du décor, mais c'est ça, là, c'est d'être sur la route puis de pas être avec ses enfants nécessairement tout le temps. Il y en a qui réussissent, mais moi, je trouvais que c'était... C'était pas évident. Là.
D'accord. Et après 5 ans dans le domaine de l'administration, vous avez fait ce qu'on appelle vulgairement un burn-out.
Oui.
Chacun le vit à sa manière. Et vous, comment l'avez-vous vécu dans vos propres mots? C'était quoi ce... Qu'est-ce qui s'est passé? Pouvez-vous nous expliquer un petit peu c'est quoi un burn-out selon vous, quoi?
Un burn-out, je pense, c'est quand tu t'oublies toi-même. Là. Alors, j'étais une artiste qui avait fait une croix justement sur avoir une carrière. Et au lieu d'essayer de... Finalement, j'étais en coiffure là, qui ressemblait beaucoup plus à de l'or. Au lieu de faire ça, j'ai voulu plus comme devenir quelqu'un d'autre. Exploiter mes talents. T'sais. Tu te dis, oh, je suis bonne en... J'étais bonne en administration, j'étais bonne en mathématiques. Alors, je vais aller faire ça, tu sais. Puis, à force, je pense, de s'oublier puis de pas écouter qu'est-ce qui nous plaît puis de se forcer d'une certaine façon. J'essayais de me faire croire que j'aimais ça. Je pense que quand même, j'étais passionnée. T'sais. Moi, j'avais besoin, quand je fais quelque chose, tout le temps, je le fasse de façon passionnée. Fait que je me disais, ça doit être parce que j'aime ça, que je suis passionnée comme ça. Mais dans le fond, C'était juste une façon de m'étourdir jusqu'à temps que j'avais plus une once d'énergie, puis qu'il a fallu que je me trouve face à moi-même, je pense, finalement. Là.
D'accord.
C'est un peu la synthèse que j'en fais là, après 5 ans. Là.
D'accord. OK. Et sur les réseaux sociaux, vous êtes une sorte de justicière sans cap, ni pouvoir en particulier. Pourquoi ce désir de transparence vous tient autant à cœur?
Ben, ça a tout à fait, hein, tout ça, finalement, mon burn-out, la musique, toutes les choses cachées que j'ai découvertes dans... Là, dernièrement, je parle de tous les emplois que j'ai faits, c'est pas nécessairement des emplois où je suis restée longtemps, mais j'ai fait la formation, j'ai pu voir qu'est-ce que c'était. J'ai vu l'envers de beaucoup de décors et je trouve qu'on peut faire mieux, tu sais. C'est comme... On dirait que ça fait 20 ans que je suis sur le marché du travail, puis ça fait 20 ans que je fais des projets, je fais des choses, puis j'ai l'impression que c'est toujours comme... C'est injuste, tu sais. C'est tout le temps les mêmes qui gagnent. C'est toujours les mêmes petits privilégiés. Puis j'ai l'impression qu'on nous fait croire qu'on peut, nous autres aussi. Les femmes, c'est une catégorie, mais il y a plein d'autres catégories de gens qui n'ont pas les mêmes chances que les autres. C'est pas vrai. Puis je trouve que les gens qui sont au pouvoir, ben ils s'en rendent pas compte. Puis je me dis, s'ils pouvaient juste se rendre compte qu'il faudrait qu'ils partagent un peu leur pouvoir pour que tout le monde soit plus heureux, tu sais. Je trouve que c'est tellement simple, je me dis.
Non, mais ne les prenez pas pour des cons. Ils savent ce qu'ils font.
Oui, mais nous aussi, on peut... Tu sais, j'ai vu une phrase, quelqu'un écrit un homme, tu sais, parce que là, c'est le gros débat de la guerre, puis il disait, un homme, Vladimir Poutine, peut-être détruire la planète, tu sais. Ben, peut-être qu'un homme ou une femme, peu importe, pourrait peut-être guérir la planète. T'sais, moi, je pense que si le mal total est possible, ben, le bien total est possible aussi. Fait que partir la vague. Là, fait que moi, je me dis, ben, à chaque jour, ben là, ça me coûte rien de faire une petite vidéo, puis à la limite, ben, j'apprends quelque chose. T'sais. À la limite, quelqu'un m'écrit dans les commentaires, ben, il me donne un argument qui a de l'allure, puis je suis comme, ah, ben, Colin, ça a de l'allure, je vais réfléchir à ça. Puis des fois, je change totalement d'opinion, puis ça m'arrive. Ça va sûrement m'arriver encore. Puis je pense qu'il faut qu'on apprenne à être humble un peu, là, que on nous apprend pas ça en ce moment. Là, on nous traite d'idiots dès qu'on réfléchit là, dans la société. Je trouve que c'est...
Ben, pour ajouter un petit peu à ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé d'être soit noir ou soit blanc. On ne peut pas être entre les deux, ou on ne peut pas essayer d'aller approfondir un peu les choses et puis aller se poser les bonnes questions et puis aller voir un peu au plus profond des choses ce qui se passe, parce que c'est facile de pointer du doigt. La chose la plus simple qui puisse exister dans ce monde et la plus stupide qui existe dans ce monde, c'est de regarder l'autre et de le traiter de fou sans le connaître, sans savoir, sans apprendre réellement la vraie raison derrière, ou juste accepter la raison qu'on nous a donnée. Et pendant des années, beaucoup de gens ont vécu, surtout en Occident, je dis toujours surtout en Occident, parce que souvent, moi qui suis par exemple un Africain qui a grandi en Europe et aujourd'hui au Canada, voilà, donc j'ai voyagé, j'ai vécu. Voyager, c'est une chose, parce que voyager, tu restes une semaine dans un pays, t'apprends rien du tout, t'es en vacances. Mais après avoir vécu ailleurs, tout ça, on a une autre image ou une autre version de plusieurs histoires que les gens ici ont. Ils ont juste une seule version. Par contre, il y a quelques années, avant l'Internet, avant tout ça, les gens avaient une excuse. On ne sait pas. Tout le monde ne va pas se taper les bibliothèques pour apprendre. Mais aujourd'hui, on a l'information à la pointe des doigts. Et on peut juste prendre le temps. Et moi, ce qui m'énerve, juste, je vais vous laisser parler, parce que c'est votre émission à vous. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand les gens ils me disent « Ah, moi, les informations, les nouvelles, je suis pas, ça m'intéresse pas. » Et tout de suite, dès qu'on dit que telle personne est méchante, telle personne « Ah, bah t'as vu, il est méchant, c'est un monstre. » Ouais, mais tu suis pas, tu t'en fous. Comment tu peux juste prendre position si ça t'a jamais intéressé, tu sais pas d'où il vient, d'où il sort, c'est quoi son historique, tu sais rien. Juste parce que certaines personnes, deux oives à la télé t'ont dit « Lui, c'est le méchant », ça y est quoi. C'est lui le méchant.
Exact.
Bah, c'est ça qui est un peu dommage.
Et c'est de ne pas être ouvert à l'opinion qui est inverse. L'opinion, tu sais, je suis capable d'avoir des débats de complètement des arguments complètement différents. Tant que le respect, il est là, tant qu'on ne se traite pas d'imbécile, moi, j'ai aucun problème, tu penses comme tu penses. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que des fois, je vais peut-être dire, on n'a pas les mêmes valeurs, ou, tu sais, c'est sûr qu'il y a certaines choses que je trouve qui sont indéfendables, mais oui, il y a des versions qu'on nous cache, il y a des choses qu'on... tu sais, c'est facile d'être... pour l'Ukraine, parce qu'on vit au Canada et le Canada est pour l'OTAN, alors, tu sais, à un moment donné, il faut faire le calcul que c'est une situation géographique qui fait qu'on se fait dire de penser ça. Est-ce que c'est ça vraiment? Tu sais, c'est très, très, très complexe. Alors, je trouve que les gens prennent vite parti, là, aussi, là, dans des histoires que, justement, ça, comme tu dis, ils sont souvent même pas intéressés à l'actualité, puis là, tout à coup, on leur dit « Oh, là, faut que vous ayez de la peine pour eux, pour eux, pour eux. » Et là, OK, mais ça vous tentait pas d'avoir de la peine avant, là, tu sais.
Ouais,
c'est voilà, autre chose, là, tu sais. C'est comme... Exactement. Moi, j'encourage les gens à réfléchir par eux-mêmes, puis à comprendre la colère aussi. On est très privilégiés, justement, ici, tu parles de l'Occident, puis de comprendre la colère des gens qui arrivent ici. Puis qu'on leur dit « Ah, venez, vous avez toutes les chances égales à tout le monde », puis qu'ils arrivent ici, puis que finalement, ils se font traiter comme des citoyens de second ordre, là, carrément, puis qu'ils n'ont pas les mêmes chances, puis ils ont une colère face à ça, puis après, les gens ici vont dire « Ben là, vous n'êtes jamais contents, tu sais. » Mais c'est pas ça, c'est comme d'aller comme provoquer, là, tu sais, quasiment, là. C'est comme, je vais aller te piquer, puis après, je vais dire, ben pourquoi tu cries, tu sais? Fait que c'est un peu ça que j'ai comme réalisé les dernières années, que si on dit jamais rien, ben ça changera pas, là, puis ça peut pas changer, là. Comme, avec les réseaux sociaux, on se parle toutes, on voit les images. Moi, je dis aux gens, sortez votre téléphone, filmez. Filmez, c'est nos meilleures armes en ce moment. Si j'avais pas vu... George Floyd, j'aurais pas réalisé tout ce que j'ai réalisé qui m'a fait prendre conscience à quel point que j'étais ignorante face au racisme. Puis c'est normal parce que je suis blanche, j'en vis pas du tout du racisme. Alors c'est un gros privilège que j'ai, mais je me rendais pas compte. Les gens autour, là, moi c'était comme non, ça arrive juste aux États-Unis, mais là je me suis rendu compte, oh, c'est partout, tu sais. C'est pas juste aux États-Unis, puis c'est ici, puis c'est.
Ouais, c'est partout, et puis le truc c'est que. Et le truc, c'est que l'histoire de George Floyd, c'était il y a 2 ans, mais quand on remonte, il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans, il y a un groupe de rap, NWA, avec Ice Cube, tout ça, qui parlait justement de ces choses-là, qui parlait, qui ont fait une chanson qui s'appelait « Fuck the Police », tout ça. Et puis, j'ai eu souvent des discussions comme ça avec des gens qui ont dit « Ah ouais, mais oui, mais eux, ils parlent, ils sont dans le ghetto, c'est des voyous, c'est normal aussi que la police, tout ça. » Mais c'est après, on se rend compte que c'est facile, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est facile de dire aux gens « Ouais, mais bon... aussi de pas prendre le temps de tout de suite traiter les gens de mauvais ou de d'ignorants parce que ben on prend pas le temps et puis on se met pas à la place des autres et c'est ça le problème avec l'humanité, c'est qu'on se met pas à la place des autres,
de comprendre la colère,
de comprendre, ouais, c'est ça.
Moi j'ai un exemple qui m'a fait vraiment réaliser que fallait j'arrête de prendre à un moment donné personnel la colère des autres, tu sais. Quand j'écoutais, c'est Renzel Dashington qui m'a fait réaliser, il y a un moment donné, il était tellement en colère, c'était dans le temps de George Floyd et tout. Et le cas de Mamadi Camara, je crois qu'il avait passé, à tout le monde en parle. Puis Renzel était tellement fâché après Danny Turcotte parce qu'il avait fait une blague. Puis honnêtement, quand t'es pas conscient des enjeux, tu comprends. Moi, je comprenais pas tant la colère. Je comprenais même pas la colère derrière la blague. Bah, c'est une blague, tu sais. Tu sais, on gaslight, là. Hein, c'est pas grave, bien, hein, parce que ça nous touche pas, tu sais. Là, j'ai vu, je suis tombée sur un... Je pense que c'était un live, ou je suis pas sûre, où est-ce qu'il était vraiment en colère, là. Mais vraiment, là, j'ai vu, là, puis là, il y avait l'histoire de George Floyd qui est arrivée. Il y avait une espèce de momentum de haine qui sortait de lui. Puis sur le coup, j'ai été fâchée. J'étais là, hey, là, calme-toi. Tu sais, j'ai quasiment écrit. Puis je pense que j'avais fait une vidéo là-dessus où est-ce que je dis que, tu sais, j'étais comme, voyons, là, c'est pas fin, toi. Puis en écrivant, je continuais à entendre qu'est-ce qu'il disait. Puis là, j'ai vu le désespoir dans son visage, tu sais. C'était pas, je vais me venger, je suis un méchant. C'était genre, je suis tannée, je sais plus quoi faire pour que vous compreniez. Puis pour vrai, ça m'a tellement, c'est tellement venu me chercher que j'ai tout effacé. Puis je dis, Zah, t'es bien sans cœur. Voyons, c'était même pas qu'est-ce qu'il vit. Fait que là, je me suis mis à écouter. Puis, mais oui, la porte était un peu ouverte, c'est sûr, parce que j'avais commencé à faire mes recherches sur les personnes noires dans les médias québécois, puis j'avais découvert qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et qu'en plus, celles qu'on avait n'avaient aucun accent. Ils parlaient tous québécois. Pierre-Yves Lord, je crois. Pierre-Yves Lord, si je ne me trompe pas. Il est adopté, je crois. T'sais, je veux dire, j'ai rien contre, mais c'est juste que c'est des comme nous. T'sais, je me suis comme rendu compte qu'il y avait cette espèce de... de déni, de renier les autres cultures. Là, j'ai commencé à me poser des questions. Y a-t-il des accents à la télé? Non, c'est tout. Je comprends que les francophones, on a été rabaissés pour notre accent québécois et on a voulu se le réapproprier. Mais là, à un moment donné, il faudrait passer à autre chose puis accepter les accents des autres. Puis arrêter d'en rire. Là. Je me sens tellement mal maintenant quand j'entends des gens rire des accents. Je suis comme... mon Dieu, on est encore là, tu sais. Mais les gens, ils se rendent pas compte du mal qu'ils font. Ils se rendent pas compte que la personne qui a un accent, elle entend la joke 10 millions de fois. Puis qu'elle est plus capable. Puis qu'à cause de ça, elle vient de perdre une job. Puis qu'à cause de ça, elle a pas eu un appartement. Puis les petits blancs comme moi, privilégiés, ils comprennent pas. Puis ils sont même insultés quand ils se font appeler des blancs parce qu'ils se font dire eux autres, depuis qu'ils sont jeunes, que la couleur, elle n'existe pas. On est tous colorblind. All lives matter. Tu sais, on les a toutes sortis, nous autres, ces affaires. On se les a toutes fait dire ça. Mais on a toutes l'air épais quand on dit ça. C'est ça que j'ai découvert. Tu sais. Fait que ça, je me dis, si moi, je suis capable de le comprendre, ben, Colin. C'est pas que je trouve que je suis conne, mais je me dis tout le monde peut le comprendre. Je me dis, voyons, là, c'est simple, juste écouter les autres, leurs témoignages, puis leur dire, OK, je t'entends. T'sais.
Effectivement.
C'est pas mal ça.
Comment avez-vous géré la naissance de vos jumeaux durant la pandémie?
Ah, c'était un bonheur total.
C'est vrai.
Mes jumeaux, ils ont dû me sauver la vie, sérieusement.
C'est
là,
vrai.
Mis, là, ça a été ma bulle de bonheur. Moi, j'avais un salon de coiffure, alors j'étais un peu comme, je savais pas quoi faire de toute façon, donc tout s'est comme placé pour que, ben, finalement, tout, j'ai fermé, puis j'ai pas eu le choix, tu sais. Puis là, ben, je suis restée avec les bébés, puis après, ben, tout s'est comme, je suis restée avec eux.
Ils sont nés quand?
Le 7 juillet. Le 8 juillet. Voyons, je me trompe.
Le 8 juillet 2020?
Oui.
D'accord.
Ils vont dire, maman, c'est plus notre date de naissance.
Ils vont l'écouter dans 20 ans. D'accord. Ben, très bien. Qu'est-ce que la pandémie vous a appris?
Oh, que j'avais fait des bons choix dans la vie. J'avais choisi les choses qui me rendaient heureuse. Parce que j'ai l'impression que cette pandémie-là nous a mis le nez dans notre, dans notre situation, je veux dire ça poliment. Là. Si tu avais de quoi changer dans ta vie, c'était là. Là. Tu pouvais pas essayer de l'éviter, essayer de fuir. Ou il y a beaucoup de gens qui ont dit « Oh mon Dieu, il faut que je parte pour ma santé mentale. » Mais ça donne un bon indice que ta vie, il y a de quoi dans ta vie, là, tu sais, t'as beau fuir. Moi, j'ai trouvé vraiment que j'étais à la bonne place puis que j'avais fait les bons choix puis ça faisait juste confirmer. Tu sais, moi, j'ai eu des... Pendant mon burn-out, ben j'ai adopté 2 chiens, 4 chats. Puis en profiter au max, là, avec eux.
Pis... Vous avez refait le monde à la maison, quoi.
Vraiment, oui.
L'arche de Noé.
Mon fils s'appelle Noah, alors.
Ah, d'accord. Ouais, d'accord.
En tout, hein?
Aïe. Maintenant, on va passer à la question.
Okay. Oui.
Où étiez-vous quand vous avez appris le suicide de votre ex-copain, il y a de cela environ 20 ans?
Ah, oh, mon Dieu. Mais en fait, c'était le soir de Halloween. J'étais en train de danser dans mon salon. Hein? C'est fou, hein?
Comment? Vous étiez en train de faire quoi?
J'étais en train de danser dans mon salon. Danser.
D'accord.
Chez mon père. La vie est belle, c'est le party. Je me doute de rien. Mm-hmm. Puis, je vois l'auto de mon ami qui arrive dans le stationnement de la maison. Mm-hmm. Et je m'en vais la rejoindre. Je m'assois dans la voiture et je vois qu'elle est en larmes. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Ça n'a pas d'abord. Mm-hmm. Puis moi, je suis super de bonne humeur. T'sais. Puis mm-hmm. je dis, pauvre toi, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Fait que c'est sûr, ça change mon beat, mais je commence mm-hmm. à me demander est-ce que c'est son père, sa mère, c'est-tu sa sœur? J'ai tout passé tout le monde dans ma tête, dans sa famille. C'était sûr que c'était à elle qui arrivait de quoi. Là. C'était pas à moi. Mm-hmm. Moi, j'étais dans le déni total de qu'il pouvait arriver quoi que ce soit. Mm-hmm. Puis quand elle me dit que c'était... Elle me dit, c'est Fred. Elle dit, il est mort. Il s'est suicidé. Disons que c'est comme un film. C'est carrément ça. Là. Même encore aujourd'hui, j'en parle. Puis j'en parle comme... C'est comme si c'était pas arrivé. C'est vraiment bizarre. C'était la chanson qu'il jouait, c'était une chanson de System of a Down, Chop Suey. Mm-hmm. Puis le bout, c'est « When Angel Deserves to Die », puis ça se met à le gros métal. Puis moi, j'apprends ça, là. Je sors de la voiture, mm-hmm. je me mets à hurler, à crier, je sors carrément de mon corps. Mm-hmm. Je me chante à terre, puis je suis comme « Non, ça se peut pas », tu sais. Mm-hmm. Tout ce que j'ai pensé à ce moment-là, c'est « Ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas ». Puis avec la musique qui joue, j'étais comme « Voyons, mais ça se peut juste pas », tu sais. Mm-hmm. C'est un stage, c'est stagé, Puis, tu sais, je veux dire, tout le monde s'en doutait, là, que... Mon copain, à l'époque, il était dépressif. Ça, il avait été 3 mois à l'hôpital. Donc, c'était pas un secret. Là. J'aurais dû m'en douter. T'sais. Mais moi, j'étais dans le déni. J'étais comme, tout va bien aller. Yeah! Mm-hmm. Il va mieux. Je l'avais vu quelques jours avant. Il va mieux. Hey! Non. Non. Alors, à ce moment-là, j'ai réalisé que tout peut arriver. Puis genre...
Et c'était quoi? Ben, je veux dire, si vous en parlez si vous voulez, ou sinon on n'en parle pas du tout. Mais qu'est-ce qui a poussé ce suicide? Est-ce que vous avez des détails? Bon, d'accord, il était dépressif. Vous l'avez dit, mais c'était quoi exactement? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il arrive à ce moment-là?
Plein d'affaires. Une accumulation de plein de choses. C'était un garçon extrêmement intelligent, donc doué à l'école. Moi, je critique beaucoup le système scolaire parce que pour que... Mmh. Il décourage un peu ces enfants-là. Lui, il finissait ses cahiers au début de l'année, puis il s'emmerdait le reste de l'année. Donc, bon, tout ça a fait que, côté académique, ça le décourageait. Donc, il a lâché l'école au cégep. Mais bon, il n'y avait pas le soutien vraiment de sa famille et tout. Là, pour, t'sais, il venait pas d'un milieu très aisé. Donc, ce qui a fait qu'il a fallu qu'il aille travailler et les jobs qu'il a fait, c'était toujours parce qu'il était bon, ben il faisait profiter de lui. T'sais.
D'accord.
C'était comme, on lui donnait la job la plus difficile parce qu'on savait que lui, il était bon et qu'il allait la faire comme il faut. Mm-hmm. Finalement, il a comme pogné une espèce de pattern où est-ce qu'il travaillait 3 mois, il se mettait de l'argent de côté puis il prenait 3 mois de vacances. Fait que tu peux voir que ça peut pas vraiment durer dans le temps. Fait qu'à chaque fois, il fallait qu'il se trouve une nouvelle job. Mm-hmm. Puis là, il économisait son argent, travaillait comme un débile. Puis là, après ça, il prenait 3 mois de congé pour se remettre de... C'était... Ça avait pas de bon sens. Mm-hmm. Puis là, ben c'est ça, là, dépression. À la maison, il avait plus sa place. Il vivait pratiquement dans un garde-robe. Mm-hmm. Parents. Bon, il voyait pas vraiment d'avenir. Finalement, ben c'est ça, lentement... s'est cassé une cheville vraiment solidement. Il s'est ramassé avec gros mal de dents. Ça, c'est vers la fin, là, juste avant que vraiment... il a fait plein de tentatives de suicide à ce moment-là. Là. C'était une après l'autre. Là. Puis, tu sais, la dernière qu'il avait faite, c'était carrément... il me dit « J'arrive pas à me tuer. » C'était ça. Il arrivait pas. Il voulait le faire sans douleur. Hein. Les gens, souvent, c'est ça. Puis il dit, j'arrive pas, j'ai essayé ici, ça. Puis il commence à m'énumérer tout ce qu'il a essayé. Puis là, c'est là que j'ai dit, ben là, il va te faire soigner, là. Tu sais, c'est. Mm-hmm. Je t'aide vraiment pas, là. Tu sais, ça faisait quelques mois déjà là, que ça allait de moins en moins bien. Alors, il faisait juste dormir. T'sais, quelqu'un qui fait juste dormir, là, c'est pas normal. Fait que, dès qu'il arrivait chez nous, il s'écrasait sur moi. T'sais, il était grand et fort, là, mais il arrivait et il s'écrasait sur moi. Il n'était même plus capable de se tenir debout. T'sais. Fait que ça a été trop long avant qu'on allume. Parce qu'à l'époque, c'était pas autant connu qu'aujourd'hui. J'espère encore aujourd'hui, je peux allumer du monde des fois, tu sais, aller voir le médecin, aller vous faire soigner avant d'être rendu là. Mm-hmm. Parce que là, ça a été l'hospitalisation pendant 3 mois de temps. Mm-hmm. Puis là, c'est perte d'estime de soi, c'est la honte. Après ça, il a essayé de s'est inscrit pour retourner aux études, pour aller étudier en arts et lettres. Donc, complètement l'opposé quand je dis qu'on a un talent dans quelque chose, mais que c'est pas ça qui nous passionne. Lui, il avait un talent dans les chiffres, mais ce qu'il aimait, c'était les lettres. Puis il aimait dessiner. Puis c'est un artiste, tu sais. Alors, c'est pour ça que je défends aussi les artistes. Alors, il y a plein de choses qui ont fait que tout l'a drainé vers le bas. Puis à la fin, ben. Il avait l'impression qu'il m'avait perdu aussi à travers toutes les choses de la société qu'il voyait comme tout négatif. Même si moi, il m'avait jamais vraiment perdu à ce moment-là, mais lui, il le voyait comme ça, puis il a pensé que c'était la fin. Puis si je peux donner un conseil, juste pour terminer aux parents, il avait 21 ans à ce moment-là, il habitait chez ses parents, puis il a dit à sa mère qu'il voulait aller à l'hôpital parce qu'elle n'allait pas bien, puis il pleurait. Puis bon, j'imagine que c'est le manque justement de connaissances à cette époque-là. Ben sa mère, elle lui a dit non. Elle lui a dit c'est pas une garderie. Puis ça, c'est elle qui me racontait ça. Là. Fait que je ne pas vraiment le savoir. Il n'aurait pas pu me le raconter. Là. Fait que c'est vraiment elle, pas longtemps après, qui me racontait ça. Dans toute sa naïveté, elle ne comprenait pas qu'elle avait. Parce que moi, je trouvais qu'elle aurait dû le laisser aller à l'hôpital, mais bon. Elle a pensé que c'était comme une façon de le mettre devant ses responsabilités, peut-être, mais on comprend aujourd'hui que c'est pas la solution. Là. Si quelqu'un a besoin d'aide, regarde, je pense qu'il aurait juste eu besoin d'un break là, pour voir clair, tu sais. Fait que finalement, ben, le lendemain, il avait pris une corde, puis il avait trouvé une solution là, pour.
Si je comprends bien, il s'est pendu, c'est ça?
Oui, dans le sous-sol chez ses parents, puis il a trouvé une technique. Là. Je dirais pas la technique, là, mais.
Non, c'est bon.
Mais c'est ça, c'est sûr. Il a fini par réussir son coup, puis c'était à Halloween, il a choisi sa journée. Je sais pas exactement pourquoi cette journée-là, mais je peux te dire qu'après, je commence à peine à fêter Halloween là, aujourd'hui. Là. Puis c'est à cause de mes enfants beaucoup. Là. Mais ouais, ça nous a scrappé la fête. Là, parce que c'était toute la gang d'amis. Hein. À l'époque, c'était une gang d'amis du secondaire. Hein. Je pourrais dire que ça a scrappé toute la gang. Là. On n'a plus jamais été heureux ensemble. Quand je vois ma meilleure amie, on pleure. Même 20 ans plus tard. T'sais, ça n'a jamais. Fait que, tu sais, quand je dis au monde, là, aller chercher de l'aide, là, c'est. Vous ne pouvez pas imaginer le mal que ça va faire au monde autour de vous de vous avoir perdu. T'sais. À chaque fois qu'ils vont se voir, ils vont penser à vous.
Et comment vous l'avez vécu après ça, les jours qui ont suivi, les semaines, les mois, les années?
Ben, je dirais que les mois qui ont suivi, ça a été un zombie, là. J'étais vraiment un zombie pendant un bon bout de temps, là. Ce que j'ai trouvé le plus dur, ça a été que t'ouvres la radio le lendemain puis que les animateurs rient encore. T'sais. Tout le monde rit. Tout le monde a du fun encore. T'sais, moi, la veille, j'étais en train de danser dans mon salon. Hein, j'avais du fun. Mais là, j'en ai plus du tout. J'en ai plus. Puis j'ai l'impression que j'en aurai plus jamais. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile quand on vit des choses comme ça dans la société, c'est qu'on se sent vraiment seul. Parce que faut continuer. La vie continue, mais pas nous. C'est nous, la vie, elle continue pas. On dirait que la vie, elle s'arrête, tu sais. C'est ce que j'ai trouvé le plus dur. J'ai eu l'impression que j'ai pas pu m'arrêter. On dirait que mon père, il a fait son possible, tu sais, puis il m'a envoyé voir des psychologues. Ben, il y a un psychologue vraiment spécialisé en deuil, puis je le remercie. Puis ça m'a peut-être sauvé la vie, sûrement, là. Parce qu'à ce moment-là, pour vrai, là, je voulais aller le rejoindre, là, tu sais. J'avais beaucoup, beaucoup de culpabilité, puis d'amour aussi, là. Je l'aimais, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que pour moi, c'était comme Roméo et Juliette, là, qu'est-ce que je vivais. Il fallait que j'aille le rejoindre. Là, je pouvais pas vivre sans lui. Là, moi, c'était vraiment une grosse histoire d'amour à l'eau de rose. Là. C'était mon premier chum. J'étais avec depuis que j'avais 16 ans, mon premier. Là, j'avais faire ma vie avec. Fait que c'était comme. C'était beaucoup de deuil à faire. Puis, ben, c'est ça, mon père, il a essayé du mieux qu'il peut de m'accompagner là-dedans. Mais si j'avais pu avoir vraiment une pause à ce moment-là, des fois, je me dis, il me semble que... Mais je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi... Je pense que d'avoir été chercher de l'aide, ça m'a sûrement sauvée, mais sûrement que j'en aurais eu besoin de plus que ça. T'sais. Je me souviens, quand j'allais travailler, je peux pas comprendre comment je faisais pour aller travailler. J'ai fini par lâcher mes jobs parce que j'avais reçu une carte de crédit. T'sais, c'est n'importe quoi, là. J'ai reçu une carte de crédit, puis je me suis dit, je suis bonne pour un mois, je vais vivre là-dessus pendant un mois, puis j'ai lâché mes jobs, tu sais, parce que j'étais plus capable, tu sais. J'avais plus de cerveau, là. Donc, c'est dur, je trouve, juste de continuer une vie normale quand, ben, dans le fond, t'as plus vraiment le goût de vivre, là. Fait que, ouais, ça m'a pris, je pense, 3 ans, je dirais, là, vraiment, remonter, là, puis dire, OK, oui, je veux vivre, là, tu sais. Parce qu'à 20 ans, là, le jour de ma fête, à 20 ans, j'étais juste comme, oh, fuck, je suis encore là, tu sais. Il va falloir que je paye ma carte de crédit, tu sais. C'était vraiment ça, là. Je pensais pas que j'allais me rendre à 20 ans, là, tu sais. Fait que, rendu à 22, 23, là, que j'ai fait, ah, ben là, il va falloir que je fasse de quoi, parce que je suis encore là, tu sais. Fait que ça m'a pris, je dirais, 3 ans avant de vraiment sortir du brouillard. Puis après ça, ben ça n'a pas été facile. Là. À chaque année, c'est de broyer à sa fête, c'est de broyer à l'Halloween. C'est que personne ne te comprend. Tout le monde dit, tu broies donc ben du noir, puis arrête de penser à ça. Puis là, tu te fais un nouveau chum, puis il faut qu'ils comprennent que tu as de la peine pour ton ex quand même. T'sais. Tout le monde trouve ça donc ben bizarre, tu sais. Tu prends une photo de ton ex, puis là, t'es comme, ouais, mais c'est parce que, tu sais, je veux pas l'oublier non plus, tu sais. Fait que c'est de l'intégrer dans ma famille, c'est de l'intégrer avec mon chum. Mon chum, il fait tout le temps il a un très bon humour, là, fait que c'est pour ça que je l'aime autant. Il vient tout dédramatiser, puis lui, il dit tout le temps, une chance qu'il est mort, parce que sinon, on serait pas ensemble, tu sais. Je suis comme, ouais, OK. Disons que, ouais. Que...
Quelque part.
Mais c'est ça. Mais tu sais, là, ça fait 20 ans, puis je commence. Je pourrais dire après 15 ans là, que j'ai commencé à être plus en paix, à moins pleurer, puis à être plus comme à réaliser que j'étais juste chanceuse d'avoir connu, puis que j'étais juste chanceuse d'avoir vécu ça, tu sais, avant, là, pas sa mort, mais tu sais, l'histoire d'amour que j'ai vécu avec lui. J'étais comme, crime, je suis chanceuse d'avoir vécu ça, tu sais. Pourquoi je regarde juste qu'est-ce que j'ai perdu, tu sais? Mais ça m'a pris un bon 15 ans, puis j'espère que ça... Si je peux faire réaliser des fois des affaires au monde pour pas que ça leur prenne autant de temps, j'essaye, tu sais. C'est pour ça, mes capsules sur TikTok. J'essaie de parler un petit peu de tout, puis je me dis... Dans le fond, c'est à moi que je parle, tu sais. C'est la moi, à quelque part, qui aurait pu entendre ça, puis aller sur des affaires plus vite, peut-être. Peut-être pas. Mais c'est sûr, c'est une grosse épreuve, là.
Donc, on peut dire que, quelque part, c'est le temps, quoi, qui a fait en sorte que, petit à petit...
Définitivement. Parce que le souvenir, il devient finalement de moins en moins quotidien dans ta tête, là, tu sais. Ça vient que là, tu y penses une fois par semaine, tu y penses une fois par mois, après tu y penses aux fêtes. Fait que ça vient comme le souvenir devient un peu plus... Au début, tu y crois pas, là, parce que les premières années, tu peux pas croire que ça va finir par diminuer. Sur la peine diminue pas. Quand tu y penses, la peine, elle remonte, là. Elle remonte comme le jour c'est arrivé, presque, là. Tu y penses pas tout le temps, tu sais. Puis il y a plein de... Comme je dis, j'ai réalisé aussi que c'était égoïste, ma peine, parce que j'étais comme, lui, c'est ça qu'il voulait, tu sais. Lui, il y avait un... C'est un autre côté que j'ai pas dit. C'est sûr qu'il y avait un côté dépressif, mais il y avait aussi un côté extrêmement spirituel de croyance, de vie après la mort, OK, qui faisait que il y avait donc envie de savoir c'était quoi. Fait qu'en plus de tous les malheurs qu'il vivait, il y avait cette espèce d'attirance-là. Fait que moi, fallait que je garde en tête qu'il doit être content de savoir c'est quoi. Tu sais, c'est sûr que c'est pas... Je suis pas capable de m'accrocher à ça et de dire « Yeah, il est mort! » Non, non, non.
Non, mais tu comprends.
Là. Mais il a dit, lui, c'est ça qu'il voulait. Il était donc curieux. Il détestait la société, mais vraiment profondément. Là. Il y avait une horreur de tout ce qui se passait dans le monde. En ce moment, je ne suis pas sûre qu'il serait capable de vivre là, avec tout ce qui se passe dans le monde. Mm-hmm. Parce qu'à l'époque, c'était l'époque de... Il est arrivé le World Trade Center, pas longtemps avant.
D'accord.
C'était en 2001, puis ça l'a complètement démoli, ça, de voir que il n'y a rien qui changeait sur la planète, tu sais. Fait que je suis pas sûre qu'il aurait continué à vivre très longtemps dans une société comme ça. Fait que ça, souvent, je me dis, tu sais, ce que j'ai vécu avec lui, c'était... Je suis déjà très chanceuse, là, tu sais.
Effectivement. Ben, écoutez, changement de décor... merci d'avoir partagé ça avec nous. C'est triste. Moi, j'ai perdu une personne dans ma vie, c'est mon père qui est décédé de maladie d'une crise cardiaque, mais d'entendre une autre. Ben, on entend les gens mourir à gauche et à droite et tout,
ouais.
Truc, mais c'est jamais. C'est pas un sujet qu'on aime bien élaborer avec n'importe qui ou n'importe quand. Donc, merci.
Ah, ça a fait plaisir. J'ai tellement des bons souvenirs de lui. Moi, j'ai toujours voulu garder son souvenir vivant. T'sais. C'est pour ça que j'ai toujours gardé sa photo. J'ai fait une page sur Facebook. Des fois, les gens ils trouvent ça un peu comme « Oh, mon Dieu, c'est... » Mais ça me fait du bien. T'sais. Pour moi, c'est comme c'est important de savoir qu'il existait. Ça m'aide à me pardonner peut-être des erreurs que j'ai pu faire. T'sais. Puis... J'espère pas refaire. Puis on est humain, hein, c'est sûr. Là.
Quel est votre film préféré de tous les temps? Et pourquoi, s'il fallait en choisir un?
C'est tellement facile. Je suis vraiment pas une cinéphile. Okay? J'écoute pas de films parce que je suis hyper active. Je l'ai découvert avec le temps. Là. Avant, je me forçais, là, mais j'avais vraiment pas de fun. Maintenant, je me force plus parce que j'ai découvert que j'aime pas ça. Mais le film que j'aime le plus au monde, c'est Happy Gilmore. Parce que il me fait trop rire. Puis en plus, j'écoute la version traduite en français.
D'accord.
Alors, c'est plein d'expressions françaises vraiment drôles que j'entends jamais ici. Là, tu sais, je vais te faire tirer une tête de niquet ou tu sais, je sais pas, je tronche la tronche ou voilà. Moi, j'écoute ça, puis en fait, je le mets à télé. C'est le seul film que j'ai d'enregistré sur mon Ligo. Puis là, le mets. Ça date de comme 3-4 ans. J'ai encore des annonces d'Éric Salvaille qui passent sur mon AV. Là, t'sais. Fait que je mets ça, puis là, je fais juste répéter les phrases qu'Happy Gilmore lui dit, puis je trouve ça donc bien drôle, puis il pogne les nerfs après tout le monde. Moi, j'aime ça me fâcher après le monde. Je trouve ça drôle, des fois, de juste comme remettre les gens à leur place. « Hey! » Tu vois sur TikTok, justement, là, j'aime ça. « Hey, toi, là, c'est assez, là. » Fait que Happy Gilmore, il m'inspire. Je le trouve bien drôle. C'est sûr que je découvre de plus en plus des fois, des jokes, je suis comme « Oh my God! » Je suis pas sûre que c'est politically correct. Je suis pas sûre que ça passe encore aujourd'hui. Là.
C'est vrai.
Mais bon, qu'est-ce que tu veux? T'sais, ça reste un classique. Tous les films d'Adam Sandler, pour moi, c'est...
C'est des bons films.
C'est des grosses jokes. Là. Je trouve ça vraiment drôle. Là. J'aime beaucoup l'humour.
D'accord. Et quelle est votre chanson préférée de tous les temps et pourquoi?
Ça, c'est... En fait, c'est une chanson que j'ai découvert il y a 16 ans. C'est drôle, c'est un film d'Adam Sandler qui me l'a fait découvrir. J'adore faire des liens. Ah, je suis bonne faire des liens. Mais oui, c'est une chanson qui jouait dans son film Les 50 premiers rendez-vous.
Ah, d'accord.
Et j'ai regardé ce film-là quand j'ai rencontré mon chum. On ne sortait pas encore ensemble, on était seulement amis, hein, parce que, bon, on apprend à se connaître avant. Et on a regardé ce film-là le premier soir, ou en tout cas dans les premiers soirs, puis cette chanson-là, c'était Somewhere Over the Rainbow, mais la version de Israël, Kawakawole, en tout cas, il y a une couple de lettres là, dans son nom.
Mm-hmm.
J'ai la misère à me rappeler là, tout. Mais c'est une version hawaïenne de la chanson qui est sublime, douce. Moi, mon chum, le père de mes enfants, c'est un homme vraiment... je dis souvent, il est cheesy. il est romantique. C'est un doux. C'est comme ça. c'est notre chanson. C'est devenu comme... mais c'est ça, au début, on était juste amis. On écoutait cette chanson-là, puis on est devenu amoureux, puis on a continué à écouter cette chanson-là. Ça a comme pris un autre sens. C'est devenu notre hymne, tu sais, à « Ensemble, on va finir par voir le ciel bleu », tu sais. Fait que...
Je vais faire un peu du hors-piste maintenant que vous m'avez mis là-dedans. Je vais juste vous poser une question. Est-ce que vous croyez en l'amitié entre hommes et femmes?
Oh oui.
Oui?
Quand il n'y a pas d'attirance physique.
Oui, mais c'est ça. Mais est-ce que... je veux dire que...
Parce que moi, mon chum et moi, on était amis, mais on savait qu'il y avait une attirance. On n'a jamais été amis plates. Là. On était amis qu'on savait qu'on était intéressés.
D'accord,
il y avait de l'ambiguïté.
Il y avait de l'ambiguïté, d'accord.
Mais je crois que tu peux être ami avec un homme si c'est clair qu'il ne t'intéresse pas, puis c'est clair que tu ne l'intéresses pas. Aucun problème. J'ai eu plein d'amis hommes et c'était tellement évident qu'on ne fitait pas ensemble du tout. Il y avait zéro attirance. Mmh. Je pense que c'est très possible. Mais à partir du moment où il y en a un des deux qui est attiré par l'autre, là, oublie ça. Là, c'est... Il y en a un qui va tout le temps attendre qu'il y ait une ouverture. L'autre va tout le temps être comme, mais il n'y en aura pas. Là, t'sais. Fait que, ou bien ça va finir qu'ils vont sortir ensemble dès que les deux vont être libres. C'est ça qui arrive des fois. Fait que moi, je suis pas bien genre à me faire des affaires de ce côté-là. Je suis assez claire, moi aussi. Il y a des ambiguïtés. Là, moi, je suis quelqu'un d'assez direct et franche dans la vie. Fait que... Il n'y a pas trop d'ambiguïté avec moi. S'il y a un gars qui a l'air d'être intéressé, je dis hey, t'es-tu intéressé, toi? Va-t'en.
C'est bien.
J'apprends avec le temps. Là.
Ça le mérite d'être clair. C'est cool.
Je sais.
Alors, maintenant, nous allons passer à la dernière partie de l'émission, enfin, ou de l'entretien, et on va passer justement à l'entretien vérité, parce que vous êtes quelqu'un hein, qui aime bien la vérité, qui aime bien les choses droites, qui aime bien, qui... Voilà, et puis je me dis, je vous ai préparé ça, je dis, on va faire un entretien vérité.
Bonne.
Alors, je vous pose la question.
Oui.
Si vous pouviez créer une loi que tout le monde devrait appliquer, quelle serait-elle?
Moi, je dirais respecter les choix des autres tant que ça ne nous fait pas de mal à nous. Je trouve ça assez important. Moi, c'est ce qu'on m'a enseigné. Là, mon père, il me disait tout le temps ça. Si ça fait pas mal à personne, t'sais, fais-le. Je suis beaucoup pour ça. J'ai bien de la misère à dire aux autres quoi faire. Si ça leur fait du bien, pourquoi qu'ils le feraient pas, tu sais? Comme pour les questions d'orientation, que ce soit des intérêts ou peu importe, politique ou peu importe quoi, tatouage, piercing, carrière que tu fais, tant que toi, ça te rend heureux, puis tu fais mal à personne. J'ai bien de la misère à avoir de juger les autres. Puis je trouve que des fois, les gens, ils ont bien de jugement, puis ça fait mal, tu sais. Ils sont dans l'erreur, puis la médisance, moi, ça serait illégal tant qu'à moi.
Effectivement. Et si vous pouviez être quelqu'un d'autre pour une journée, qui aimeriez-vous être?
Je pense qu'en ce moment, je serais François Legault, puis je fais toutes les mesures. Toutes. Peut-être Justin Trudeau. Je me retirerais de l'OTAN, puis j'irais tranquille chez nous m'occuper de mon propre pays. Non, la politique, ça m'intéresse quand même.
Et si vous étiez Legault, vous feriez quoi? Vous avez dit, si vous étiez Legault, vous feriez quoi?
Ben, si j'étais Trudeau, je m'occuperais de mon propre pays, là.
D'accord.
D'aller dire aux autres quoi faire. Je trouve que, je sais pas, le Canada a déjà assez de travail, là. Il est un grand pays vide. On a plein de choses à construire. Je veux dire, je comprends pas pourquoi qu'on va jouer le petit chien de garde des États-Unis, là. Mais bon, j'ai bien de la misère à comprendre tout ça, là. Si je pouvais, je pense que je serais la personne qui... comprend tout ça en ce moment.
D'accord. Et si vous pouviez changer une chose dans votre vie, qu'est-ce que ça serait?
J'aimerais ça vivre en campagne en ce moment.
D'accord.
Ouais, c'est vraiment mon but, là. Ça va changer de toute façon, c'est sûr, c'est dans les projets. J'ai envie de devenir plus autosuffisante, alors me diriger vers la campagne. Et le bois, les animaux, c'est tout dans les projets, là, me rapprocher plus de la nature. Alors, en ce moment, je suis dans un quartier très, très banlieusard, à 5 minutes de l'école et de l'autoroute. Et bon, je suis très dans le, tu sais, dans le spot, là, que ça bouge. Ça me manque, là. J'ai découvert que j'ai besoin de ce calme-là. Je pensais que j'étais plus une fille de ville, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai été élevée dans les champs. J'ai envie des montagnes. Fait que, on verra.
D'accord. Et si vous pouviez voyager dans le temps, à quelle époque iriez-vous?
Ben, j'irais dans le futur.
OK, pour voir quoi?
Ben, en fait, je suis en train d'écrire un livre sur le futur dans 150 ans. Alors, je vais voir si ce que j'écris, ça a du bon sens.
OK, d'accord. Mais très bien, c'est super. Dernière question. Si vous pouviez choisir entre pouvoir parler à tous les animaux ou pouvoir parler toutes les langues du monde, que choisiriez-vous?
Toutes les langues du monde, parce que les animaux, je leur parle déjà avec ma pensée.
D'accord.
Oui, je suis super à ce point. Pas un peu.
D'accord. Et Isabelle, que pouvons-nous vous souhaiter?
Ah, que du bonheur. Que du bonheur, des moments de bonheur à savourer, à se rappeler quand ça va un peu moins bien. Je pense que c'est ça la vie, finalement. C'est cultiver ce moment de bonheur-là pour que quand on est dans un creux puis qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien là, ben on repense à ça puis ça nous. Ça ravive. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Des petits moments de bonheur.
D'accord. Isabelle, merci.
Ben, merci à toi. J'ai-tu parlé trop? Je parle beaucoup, des fois.
Non, pas du tout. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Isabelle pour ce moment de confidence. Quelques petits rappels avant de se quitter. Abonnez-vous, partagez ce podcast et parlez-en à 2 personnes qui vont en parler à 2 autres et ainsi de suite. Un détail super important, lâchez-moi 5 étoiles si vous êtes sur Apple Music ou un commentaire si vous utilisez des plateformes telles que Spotify, Google Podcast et autres. Tout cela permettra de donner plus de visibilité au podcast, donc je compte énormément sur vous. Suivez-moi sur ma page Instagram et Facebook à quellehistoire.podcast. N'hésitez pas à m'écrire par mail à quellehistoire.podcast@gmail.com. À chacun son histoire, mais quelle histoire! À vous de le découvrir dans le prochain épisode, jeudi prochain. Ciao, ciao!